Cali sur Mozilla et les standards du web. Je grenouille dans les standards du web depuis 15 ans maintenant. J'ai commencé avec SGML il y a très longtemps. J'ai fait partie du HTML Working Group, j'en fais toujours partie. Je suis éditeur ou auteur de pas mal de drafts de CSS. L'année dernière, je suis intervenu sur l'histoire de HTML et de CSS. Et on va continuer en répondant immédiatement à une question qui était dans la boîte à questions. HTML5, c'est pour quand? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ou très très peu? Ça patauge. Bon, on va voir que ça patauge et ça patauge pas, en fait, effectivement. Il y a de quoi raconter. Et on va commencer tout de suite, puisque tout ça, c'est une histoire de canard pour ceux qui ont suivi la conférence de l'année dernière. Jean-Louis nous a fait l'honneur hier d'envoyer un petit mail dans la liste des orateurs demandant quelle était la dernière contribution de l'industrie pornographique au standard HTML. Et donc, voilà. J'ai reçu ça exactement au moment où il m'a envoyé son mail. Donc, vous voyez, les canards peuvent contribuer au bonheur. Spécial Jean-Louis, je suis désolé. Voilà, c'est peu. Donc, un petit peu d'histoire, on va revenir un petit peu à HTML. Donc, à l'origine, HTML a été inventé avec l'ancêtre du protocole HTTP par Tim Berners-Lee au CERN pour permettre de distribuer de l'information entre les différents projets scientifiques et les différents chercheurs du CERN et puis de la communauté scientifique de physique fondamentale. Il a fait ça tout seul. J'avais bien montré l'année dernière qu'il y avait des petits pépins dans son approche sémantique de HTML dès le départ. Dominique ne rigole pas trop. Par exemple, un paragraphe, un tag P, n'était pas du tout un élément paragraphe, mais était un saut entre deux paragraphes. Et c'était beaucoup plus une approche stylistique que sémantique. Et il a continué à faire évoluer ça tout seul au début, un petit peu avec la petite communauté des quelques dizaines de serveurs web du monde entier à l'époque. Et puis, quelques personnes l'ont rapidement rejoint, comme des noms qu'on connaît bien, Dave Raguette, Dan Connolly et quelques autres. Et rapidement, on s'est rendu compte que la standardisation avait besoin d'être étendue, d'être étoffée et de créer une communauté. À l'époque, la seule communauté disponible et logiquement légitime sur ce sujet-là pour faire ça était l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, donc qui a créé un groupe de travail sur HTML, qui a abouti à la publication de HTML 2.0, comme RFC 1866, je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc le premier standard un peu sérieux dans le monde de HTML. Et puis c'était beaucoup trop ouvert pour les entreprises qui investissaient des véritables fortunes dans le web, et en particulier qui déposaient des brevets à tour de bras. Ça commençait à donner des véritables foires d'empoigne. Rappelez-vous le fameux procès EOLAS. Donc c'est le premier procès de l'ère du web. Sur les objets externes inclus dans une page web, ça date de 95. Et 95, c'est la date de création du World Wide Web Consortium, et c'est pas pour rien. Donc le W3C a été créé en 1995 pour répondre aux problèmes soulevés par le processus trop ouvert de l'IETF. C'est un consortium industriel, c'est-à-dire que les membres payent pour en être membres, et jusqu'à très récemment, je crois qu'il n'y avait pas d'individus membres du consortium, il doit y en avoir un ou deux maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre entreprise, où ils sont rien du tout, ils se sont constitués en indépendants, et puis ils payent leur petite fille annuelle, c'est assez sympathique. Bonjour, je m'appelle machin, je suis de la société machin, je fais machin. Donc c'est bon. On est toujours dans la standardisation là-dessus, c'est toujours le W3C qui officiellement standardise HTML, mais l'édifice s'est un tout petit peu fissuré au cours des dernières années, et on va voir ça maintenant. Donc HTML 3, HTML 2.0, ça doit dater de 94 ou 95, donc 94 probablement. 3.0, donc janvier 95. 3.2 était juste, on va dire, un bug fixing de 3.0, parce que c'était vraiment un standard assez épouvantable. On l'a mieux standardisé, on l'a mieux fait, on a corrigé les bugs, on a incorporé ce qui venait de Netscape et déjà de Microsoft à l'époque, et on a fait quelque chose d'un petit peu plus propre. Surtout d'un peu plus étendu, il manquait des choses qui n'étaient pas dedans. Les tableaux étaient mal définis en 3.0, il ne sait même plus s'ils étaient là. Enfin bon, c'est une cata. En avril 98, on a sorti la version 4.0, qui a été rapidement remplacée par la 4.01 de mémoire dans les premiers mois de 1999. Et alors depuis, plus rien. Donc faites le compte, 24 avril 98, HTML 4.0, 15 novembre 2007, rien. Pas terrible. Qu'a fait le W3C en attendant? Il a travaillé sur les différentes moutures de XHTML. Donc XHTML 1.0, qui est juste une XMLisation de HTML, est un semi-échec. Si on va avoir ce cher monsieur Google et qu'on se débrouille pour lui demander les statistiques des documents HTML4 ou 4.0.1 et XHTML sur le web, la proportion de documents XHTML reste très faible. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que, tout simplement, il n'y avait pas besoin que ça prenne. HTML4 marchait très bien. Il y a 100 millions de sites web dans le monde. Quand vous concevez un site industriel avec, on parlait de dizaines de milliers de pages ou de dizaines de milliers de sites, changer tout ça et passer d'un langage à un autre, même s'ils sont compatibles et que vous passez juste d'une logique SGML à une logique XML, ça a un coût très 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 sérieux et ça ne s'est pas fait. XHTML1.1, c'est la modularisation de XHTML1.0. Donc, en gros, vous dites, je veux utiliser les tables, je veux utiliser les formulaires, mais je ne veux pas utiliser les éléments machin bidule. Alors ça, c'est un échec total, personne ne s'en sert, c'est une véritable catastrophe. C'est un temps investi en stricte pure perte au W3C. Et XHTML2.0, c'est le fameux dead dog dont je parlais l'année dernière. Allez, je vous la refais, je vous la refais. Donc pourquoi est-ce que c'est un dead dog? Parce que quand on coupe le head, le body bouge encore. Donc c'est un travail qui a été initié très tôt au W3C, mais vraiment très très tôt, hein. En 2002 déjà, mi-2002, un des premiers drafts de XHTML2.0 était déjà disponible. Donc c'est il y a 5 ans, plus de 5 ans maintenant. En octobre 2006, après pas mal de commentaires de quelques techniciens influents ou blogueurs ou personnes liées au W3C, dont ma pomme malheureusement pour eux, Tim Berners-Lee a publié un article sur son blog disant que oui, il y a eu quelques commentaires quand même, on s'est rendu compte que, et donc on va faire un nouveau groupe, le HTML Working Group, qui va s'occuper de HTML, langage successeur de HTML4, le XHTML2 étant laissé dans le XHTML2 Working Group et requiescat in pace. Merci. Donc c'est un véritable coma dépassé. Aucun implémenteur de navigateur ne s'occupe sérieusement de XHTML2. Microsoft, en particulier, avait quitté la table d'XHTML2 tout doucement, sans faire de bruit, mais pratiquement en demandant à être retiré, à ce que son nom soit retiré du standard en cas de publication. Je ne sais pas si vous imaginez le boucan que ça peut faire. Opera ne s'occupe pas trop d'XHTML2 et Mozilla n'a aucun intérêt à faire du XHTML2. De toute manière, oui, bon. De toute manière, il y a un conflit de namespace entre XHTML et XHTML2, et l'implémentation des deux ensemble dans le même navigateur risque d'être techniquement impossible. Vous voyez, tout a été bien pensé. À la suite, alors, donc ça fait 5 ans au minimum, 5 ans et demi, que XHTML2 a commencé sa standardisation. À force de répéter au W3C, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, vous allez dans le mur, ici, c'est un mauvais compromis, on a commencé à vraiment se fatiguer. On a fait des nombreux retours techniques au working group chargé d'XHTML2, souvent sans aucune réponse de leur part, ou alors vraiment des réponses du style, attendez, qui êtes-vous, vous n'y connaissez rien. Le résultat a été assez catastrophique pour le W3C, c'est-à-dire qu'il y a un groupe informel qui s'est construit qui s'appelle le What Working Group, que certains appellent le What Task Force, parce que du coup l'acronyme devient WTF, qui veut dire en anglais What the fuck. C'est assez péjoratif, mais enfin bon. Et donc Apple, Mozilla et Opera, à la suite d'un workshop du W3C sur les documents composés, donc composés de différents langages XML, ont décidé de s'associer, entre guillemets, pour laisser pour tuer XHTML2, clairement, schlack, et pour bosser sur un véritable successeur à HTML4 qui serait HTML5. Le What Working Group a commencé à travailler très très dur, très très vite, et à la suite de ça, il a bien fallu que le W3C se rende compte que HTML commençait à lui échapper, et que le W3C sans HTML, la presse en aura fait un tabac, quoi. Vous vous rendez compte, HTML est publié en dehors du World Wide Web Consortium. C'est une véritable catastrophe. Et c'est pour ça que c'est entre autres pour ça que Tim Berners-Lee a réagi en octobre dernier. Alors, quelles sont les grosses différences d'HTML5 avec HTML? Ah oui, au fait, je ne vous ai pas montré, mais alors, ma passion des petits canards va assez loin. J'ai trouvé ça à Boston, il y a quelques jours, et alors j'adore parce que ça fait... Ça m'éclate. Ça m'éclate. Mon fils aussi, accessoirement, mais ça m'éclate. HTML5 a été fait entre autres pour harmoniser les différences entre les différents navigateurs. Si, tous ici, à peu près, vous avez travaillé sur la fabrication d'un site web, vous savez que pour un élément donné ou une propriété CSS donnée, il y a des différences de restitution ou d'interprétation entre deux navigateurs donnés. Mieux, il y a des différences entre IE5 et IE6, et je ne vous parle pas de ce que va faire dans quelques mois la prochaine version d'Outlook. Parce que ce n'est pas le même layout engine entre Outlook 2003 et Outlook 2007. C'est un véritable bonheur. IE8, ça va être costaud aussi. À mon avis, ça va être vraiment sympathique. Donc, HTML5 a été fait vraiment pour harmoniser. C'est-à-dire qu'on a étudié pour chaque feature de HTML, pratiquement aussi de CSS, mais on n'y est pas encore, de HTML4, comment fonctionnaient les différents navigateurs, donc Opera, Mozilla, même IE, même s'ils ne faisaient pas partie du Working Group. Et on a essayé d'harmoniser tout ça. C'est-à-dire regarder quelle était la base commune, regarder ce qui n'était pas, ce qui était standardisable avec un peu d'effort, et regarder ce qui était complètement différent, de manière à arriver à, voyons, à un revamping de HTML4 qui tiendrait compte des différences. D'accord ? Donc, en fait, on ne change pas les navigateurs, mais on va changer le standard pour s'adapter aux common practice. Ça, c'est un effort absolument colossal qui permet d'aboutir. En fait, vous avez le standard de Jurée, qui est le standard publié par l'organisme de standardisation internationale qui est le W3C, et le standard de facto, qui est celui qui est réellement implémenté. Bon, on s'est orienté vers le standard de facto, ce qui est pas mal. C'est une spec assez compliquée parce qu'elle contient son propre document object model. Pour ceux qui connaissent le DOM et qui l'utilisent en JavaScript, toutes les extensions de HTML5 ont un DOM, si nécessaire, qui permettent d'appeler les nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Au lieu d'avoir, comme précédemment, un document HTML, un document DOM, un document différentes API JavaScript sur le côté, vous avez tout en un seul document. Je me suis amusé juste avant de commencer à papoter à faire un print preview de la spec HTML5 telle qu'elle est sur le Working Group. Tenez-vous bien, ça fait 522 pages. Donc je souhaite bien du plaisir, premièrement, aux web designers qui vont essayer de se coltiner ça, parce que ce n'est pas d'une clarté limpide, et alors aux implémenteurs, quand même, on va bien rigoler. Un truc important aussi, c'est que j'ai mis en titre X entre parenthèses HTML5. Il y a un seul HTML5 qui est déclinable en HTML et en XHTML. La grosse différence par rapport à HTML4, c'est que HTML4 était une application de SGML. HTML5 ne l'est plus. HTML5 définit son propre parseur HTML. Ça résout de très très nombreux problèmes. Bon, il n'y a que les techniciens geeks barbus à t-shirt noir dans la salle qui vont me comprendre. Mais vraiment, tous les pépins que vous avez pu avoir à cause du parsing SGML ont disparu grâce à ça. Et en XHTML5, vous êtes clairement une application de XML, et là, rien de nouveau sous le soleil. La communauté est totalement ouverte au sens où l'IETF est ouvert, c'est-à-dire vous voulez aller participer à la mailing list et contribuer, vous y allez, vous inscrivez comme vous voulez, vous contribuez comme vous voulez. Ça peut être considéré comme trop ouvert. On va voir que ça a des avantages et des inconvénients. On en a parlé assez longuement la semaine dernière au W3C, durant son meeting plénier de l'hiver bostonien très chaud. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aux Bahamas en février? Je ne sais pas, mais enfin bon. C'est vraiment un sérieux pépin. Vous allez voir, il y a vraiment des gros avantages et malheureusement quelques beaux inconvénients. Alors, puisque la principale question que vous posez quand on parle d'un nouveau langage HTML, c'est quels sont les nouveaux éléments? Et bien les voilà. Alors, on va dans la spec, ils sont eux-mêmes classés en fait en trois catégories nouvelles. Donc, je les ai maintenus dans ce transparent. La première colonne, je pense, est assez simple à comprendre. Je vais les détailler tout de suite après. Ce sont des éléments plus strictement sémantiques, on va dire. C'est diviser votre contenu en sections, en articles, en colonnes sur le côté de votre article. Très agréable en éléments définissant votre navigation. Puisqu'avant, pour détecter une navigation dans une page, vous alliez chercher les classes égale nav ou ID égale nav avec uppercase, lowercase, camelcase, on s'amusait comme des fous. Là, non, vous avez un élément nav, ce qui va permettre à tous les furteurs, tous les robots qui moulinent un site pour détecter leur navigation, de la détecter automatiquement. Normalement, tout lien dans un élément nav sera de la navigation. C'est très sympathique. La deuxième colonne fait partie des éléments dits replaced elements, donc les éléments externes que vous incluez dans un document. Alors, l'audio, ça c'est nouveau. L'embed, bah, ça vous connaissez bien. M, on va en parler dans 2 minutes, c'est ahurissant. Miter, c'est pas mal non plus. Source, ça sert pour définir plusieurs sources audio-vidéo. Time dit bien ce que ça veut dire. Et vidéo, Charles pourrait vous faire une démo dans 10 minutes. Ça sera assez sympathique. Canvas, dans la troisième colonne, est le premier élément qui a été sérieusement rajouté à HTML. Donc Canvas vous permet de faire de la manipulation bitmap 2D. C'est très sympathique, c'est très puissant. Je vais vous en faire une démo instantanée. Mes slides ici ne sont pas sous PowerPoint, ils ne sont pas sous OpenOffice, c'est du HTML pur. Je vous le prouve. Voilà. C'est entièrement du HTML. Hein. Il n'y a pas de script. Il y a des sélecteurs, c'est tout. Et il y a App Media Projection. Et je me sers de Canvas, si j'arrive à... Stock. Pour la liste des slides, je prends une image bitmap de chacun de mes transparents, je les colle dans un Canvas, et vous avez ça. Et tout ça, c'est du HTML pur. Attendez, je ne vous ai pas encore montré l'éditeur. Attendez. Je ne sais pas si ça se voit sur la projection, mais en fait, ça, c'est pas un fond uni, c'est un dégradé. Bon, le projecteur doit bouffer un peu ça. C'est un peu plus grisé par là et un peu plus marron par là, et c'est un fond en SVG, dans du XHTML. Donc, vous voyez, Office, vous rajoutez ça avec une librairie Smile qui est totalement open source, faite par l'université de Helsinki, et vous avez un remplaçant absolument parfait à PowerPoint. Pardon ? C'est vraiment dans le fond ? Oui. Non. Alors, article, donc un blog de contenu indépendant, c'est assez clair. C'est-à-dire que si vous avez un document qui contient plusieurs articles, en fait, chacun des articles est sémantiquement indépendant de l'autre, typiquement une archive de plusieurs articles de presse. Aside, dans un article, vous pourriez avoir ces espèces de petites colonnes que vous trouvez dans la presse écrite qui vous donnent un éclairage ou des informations complémentaires sur le texte de l'article lui-même. Dialogue, c'est assez marrant. En gros, c'est un DL amélioré, pour ceux qui connaissent l'élément DL, mais qui vous permet d'afficher qui définit un dialogue entre plusieurs individus, entre deux individus, un dialogue en général, deux. Pas grave, Daniel. J'ai un petit jet lag, 5 avions dans les pattes et je suis un peu fatigué, excusez-moi. Figure, c'est assez clair aussi, c'est un élément composé d'une image et d'un texte. Voilà, c'est un petit peu plus étoffé que ce que permettait HTML. Bêtement, on s'est rendu compte que la plupart des sites un peu propres qui mettent une image au milieu de contenu mettent une légende dessous. Donc, autant standardiser. Header et footer, je pense que c'est assez aisé à piger. Et navigation section, je suis déjà passé dessus. Alors, audio, vous allez être très content, vous allez pouvoir être énervé par tous les sites que vous allez visiter. Il y aura de la zizik synchronise avec tout, ça va être un vrai bonheur. Il ne manque plus que Blink sur la totalité de la page et vous serez super content. Non, franchement, ça va être l'enfer, quoi. Mon Dieu. Embed, bah ça c'est juste la standardisation de l'embed que vous connaissez tous et qui vient du monde Microsoft. C'est un élément de mise en valeur qui correspond en gros à l'emphase et la forte emphase de EM et Strong. J'ai pas très bien compris à quoi ça sert, c'est franchement fumeux. Et d'ailleurs c'est tellement fumeux que dans l'aspect qui est marqué, on comprend pas trop, c'est peut-être à jeter. Donc à mon avis, ça va pas faire long feu. Alors Meter, c'est une jauge textuel, en gros un slider, hein, mais c'est textuel. Alors ça me semble complètement trabiscoté, parce que vous pouvez mettre autre chose qu'une valeur strictement numérale à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre parfaitement 5 ou 20%, mais vous pouvez mettre le cinquième. Ou vous pouvez mettre 50 sur 80. Alors le parsing de ça, ça va être assez démoniaque. Je ne comprends pas. Je pense que je vais faire un petit mail au HTML Working Group, parce que ça me semble assez spécial. Source, c'est assez sympa pour la vidéo, ça permet de définir plusieurs sources alternatives pour une seule vidéo. Par exemple, vous avez plusieurs vidéos disponibles en fonction de votre bande passante ou de votre langue. Source vous permettra, dans un seul élément de vidéo, de définir toutes ces sources multiples, à l'agent utilisateur de vous restituer une méthode de choix. Time, bon, bah, c'est très clair, hein, ça vous permet d'insérer un temps sémantiquement définie à l'intérieur de documents. L'algorithme de lecture d'un temps tel qu'il est défini dans l'attribut de l'élément time, à lui seul, doit faire 8 pages à l'intérieur de la spec. Je crois qu'il y a guère que Reuters qui a eu un algorithme un peu plus compliqué, mais je pense qu'on va pas tarder à les dépasser. Vidéo, c'est un très très gros morceau. Allô ? Bonjour. C'est un très gros morceau. On a eu pas mal de démonstrations de ça la semaine dernière au W3C. On a eu pas mal de discussions là-dessus aussi. C'est vraiment une énorme attente de la plupart des sites web. Je ne vais pas revenir sur les raisons de contenu, mais sur les raisons techniques, c'est assez phénoménal hein, quand même. Les troisième types d'éléments, donc canvas, dessin, bitmap. Pour ceux qui ont fait du logo ou du LSE dans leur jeune âge, vous allez pouvoir retrouver tout ça avec bonheur. Seymour Papert vous dit merci. Vous pouvez faire des transformations, retourner des choses, enfin c'est un véritable bonheur. Et on s'oriente vers le canvas 3D aussi, ce qui va permettre de faire encore des choses un peu plus sympathiques. Commande, c'est un élément de base qui va servir à étoffer en gros l'interface utilisateur de vos web applications. Donc en gros, quand vous faites des sites web qui ont plus l'air d'une application que d'un serveur web, à l'aide de commandes, vous allez pouvoir obtenir des contrôles qui sont un peu plus natifs en termes d'interface utilisateur et surtout un peu mieux pluggés avec vos applications. C'est assez compliqué, allez voir la spec, il y a quand même de quoi apprendre là-dessus. Les data grids, pour ceux qui connaissent les triangles ZOOL ou tout simplement les arborescences dans l'explorateur des fichiers de Windows, hein, bah, ça vous permettra de faire ça. Soit des listes, soit des arbres avec du folding, vous cliquez sur plus ou moins et puis ça ouvre, c'est du grand classique. Details, bah, c'est toujours d'interface utilisateur, c'est pour faire les sections plus ou moins quand vous êtes dans un dialogue et pouvoir les encapsuler dans quelque chose qui s'affiche ou ne s'affiche plus en fonction du clic. Event source, c'est pour définir la cible d'événements envoyés par un serveur, parce que HTML5 a toute une section pour le remote commande, le offline browsing et tout un tas de trucs très sympathiques, mais qui alors je vous dis font les 522 pages de la spécification. Output, même après 5 ou 6 lectures, j'ai rien compris. Je suis pas sûr d'avoir envie d'en remettre quelques-unes de plus. Laissons tomber, s'il vous plaît. Progress, bah, c'est la progress bar. Hein. En gros, c'est le truc qui se remplit quand vous chargez une page web. Mais alors, franchement, c'est le foutoir. La définition de l'élément me semble aujourd'hui assez incohérente et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail dessus nécessaire. Ouais, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors, les autres différences fondamentales. Vous avez plusieurs types d'éléments input. Donc, pour pouvoir rentrer un temps, pour pouvoir rentrer un URL, pour pouvoir rentrer un nombre, pour pouvoir rentrer pas mal de trucs comme ça, avec un contrôle de ce que vous frappez. On a tous les gens qui ont fait un site web un jour, ont été obligés de mettre un event listener sur une text box pour vérifier que vous mettez bien que des chiffres à l'intérieur, ou alors dans votre PHP derrière, aller vérifier qu'il n'y a que des chiffres. Avec HTML5, plus besoin. Classe, dir, ID, langue et title. C'est pas quelque chose qui est très connu, ne sont pas aujourd'hui en HTML4 des attributs disponibles sur tous les éléments. D'après l'aspect, par exemple, ID n'est pas disponible sur l'élément style. Ce qui interdit, par exemple, normalement, à un JavaScript d'aller identifier un élément style donné, le supprimer ou le rajouter ou le manipuler. Hein, si on valide, il n'y a pas. En HTML5, tous les éléments de la totalité du modèle disposent de ces attributs de base. On rajoute des choses qui sont super modernes. Content Editable, qui vous permet, comme son nom l'indique, d'éditer le contenu d'un élément. Alors pour info, ça a quand même été réalisé par Microsoft dans Internet Explorer 5.5 en 98. Vous voyez, on est encore super là, on est vachement à jour. Quoi. En 2007, là, on est en train de standardiser une solution de 98, je suis effaré. Design Mode, qui vous permet de faire la même chose, de dire que un élément est éditable, mais cette fois-ci pas sur un élément donné, mais sur tout le document. Alors, je vais vous ouvrir un tout petit peu les yeux sur la conjonction des deux. Imaginez Design Mode On sur le document et Content Editable False sur un élément dans ce document. Donc tout le document est éditable sauf un élément. Bah, vous avez des templates. Vous avez des modèles de documents. Et ça, pour l'application Corporate, ça va faire un malheur. Vous avez des menus contextuels, vous avez du drag and drop vachement mieux défini que tout ce qu'on pouvait faire en JavaScript avec... Nlibrary, jusqu'à aujourd'hui, Yahoo fait ça très bien, mais on devrait faire ça beaucoup mieux maintenant. Les tables index sont bien mieux définies aussi. Et enfin, vous pouvez avoir des scoped style sheets, c'est-à-dire définir des styles CSS limités à un sous-arbre de votre document. C'est-à-dire vous prenez un élément P et vous dites ces styles vont s'appliquer dans le sous-arbre dont ce P est la racine et pas en dehors. Le paragraphe d'avant, ce n'est pas applicable, le paragraphe d'après, ce n'est pas applicable. C'est absolument super pratique et ça a des applications absolument énormes en termes de copier-coller inter-document. Le copier-coller inter-document impose soit l'usage pratiquement obligatoire de l'attribut style, soit des scope style sheets pour être sûr que vous copiez les styles tels qu'ils sont. Si deux documents n'ont pas les mêmes feuilles de style appliquées, le seul moyen de copier-coller en WYSIWYG, c'est d'extraire les styles tels qu'ils sont restitués du premier document, de copier l'élément dans le deuxième document avec ces styles-là, pour être sûr qu'ils soient appliqués. Alors je vous ai mis un petit exemple. Hein. Donc là, vous avez une section dans laquelle on définit un élément style qui est scopé. Ben voilà. Donc ce paragraphe-là va avoir un cadre rouge, fin et groovy. Et ce paragraphe-là ne l'aura pas puisqu'il est en dehors de la section. Très pratique. Vous avez des éléments dépréciés aussi dans l'aspect, mais comme d'habitude, on sait bien que ce qui est déprécié reste ad vitam aeternam. Donc je ne m'en préoccupe pas. Alors il y a quand même quelques inquiétudes. L'aspect est un bitique. Et je reste poli, j'aurais pu être bien pire que ça. En particulier, en HTML4, la définition d'un élément était certes très technique, mais lisible en SGML. Donc en une ligne, on voyait quel était le modèle de contenu d'un élément. Là, non, c'est écrit en anglais. Alors, on pourrait se dire que c'est quand même beaucoup plus lisible pour le non-technicien. Oui, certes, mais l'aspect est fait pour les techniciens. Elle est faite pour les implémenteurs de navigateurs. Et avant, vous voyez le modèle d'un élément d'un coup d'œil. Maintenant, il faut lire trois lignes. Et au bout de trois lignes, vous dire, bon, est-ce que j'ai bien compris ? Ça, franchement, ça m'inquiète beaucoup. Tout l'aspect est comme ça. Il y a des renvois permanents de sections à d'autres sections. Je suis assez inquiet, en fait, sur la lisibilité globale. Il y a un problème que Charles devrait bien ramener chez Opera. C'est le copyright. Le copyright n'est pas le copyright d'une organisation totalement indépendante à but non lucratif, genre IETF, W3C. C'est copyright Apple, Mozilla, Opera. Ça finira par poser un problème. Ça posera un problème de patent, toutes choses comme ça.
Cela se résoudrait avoir copyright W3C.
Ouais. Je pense que c'est indispensable.
Absolument.
Un problème très sérieux, Microsoft n'est pas dans le White Working Group. Microsoft est dans le HTML Working Group, qui reprend HTML5 pour le standardiser dans le W3C, mais Microsoft n'est pas dans le White Working Group pour des raisons de brevets, justement, et de conflits de brevets. Alors, il ne faut pas tirer du tout sur Microsoft, en l'occurrence. Il y a quand même des bonnes raisons. Ils détiennent des brevets dans le monde du graphisme, dans le monde du web, des choses comme ça. Et les avocats considèrent, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a des conflits d'intérêts. Que c'est pas qu'ils risquent un procès, c'est que le processus du White Working Group ne leur permet pas d'avoir une situation claire sur l'état de leur brevet et leur pérennité. Donc ils peuvent pas être dedans. Ça, c'est un véritable pépin, et c'est pour ça qu'à la base, je pense que le White Working Group aurait pas pu réussir complètement. Le White et le W3C ont besoin l'un de l'autre. Un vrai pépin est l'ouverture du White Working Group complète. Ça a amené beaucoup de petits jeunes. C'est pas un problème, ils sont super bons, ils sont super doués, ils sont parfois autodidactes, sont vraiment géniaux, ils travaillent 28 heures sur 24. Vous leur envoyez un mail, la réponse est arrivée avant même que la vôtre soit partie, enfin bon, c'est absolument hallucinant. Vous faites un mail de 2 lignes pour poser une question, vous avez une réponse de 8 pages. C'est extraordinaire, mais il y a juste un petit problème, ils sont un peu beaucoup fanatiques. Et ils sont un peu beaucoup éloignés de la communauté des utilisateurs d'HTML, c'est-à-dire les designers de web. J'en ai parlé avec quelques-uns la semaine dernière, et on se comprend pas du tout. Moi, mon monde, c'est le monde des éditeurs. Tout à l'heure, Jean-Louis avait sur son bureau Windows Enview, hein, l'éditeur de page Enview, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai un assez fort chapeau éditeur HTML sur la tête. On se comprend pas du tout, ils ont pas du tout la même optique orienté usager de du standard que nous pouvons avoir ou que vous pouvez avoir. Et ça, c'est un véritable souci. Il y a des conflits permanents entre le What Working Group et le W3C. La semaine dernière, on a assisté à quand même deux ou trois très belles foires d'empoigne dans notre salle de réunion. Ça a été très chaud. Ça a failli voler à travers la salle quand même. Ça va finir par claquer un de ces quatre si le What Working Group ne met pas un peu d'eau dans son vin de son côté, c'est-à-dire les jeunes ne se calment pas un peu, et si le W3C ne se rend pas aussi compte que sans eux, ils n'y arriveront pas. Donc il y a un compromis à trouver, ça me semble quand même difficile. HTML5 a un seul auteur. Alors si vous téléchargez la spec, vous allez voir éditeur Yannickson. Il n'est pas éditeur, il est auteur. Donc il fait partie des mecs qui travaillent 72 heures sur 24. Il était déjà avec moi chez Netscape, c'était du délire, on n'arrivait pas à le suivre. Il bosse 4 fois plus vite que tout le monde. Il y a juste un petit défaut dans la cuirasse, c'est que si demain matin il se fait renverser par une voiture et il en meurt, qui s'occupe de HTML5 ? C'est pas hypothétique, ça peut arriver. Dans le W3C, on a déjà eu des disparitions, hein, ou des gars qui tombent subitement malades. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un problème majeur. Le HTML Working Group a, tenez-vous bien, plus de 400 membres. C'est du délire. Imaginez un conférence call à 400 membres. C'est « je veux la parole ». Attends, on fait taire les autres déjà. c'est pas possible. Un face-to-face meeting, déjà, on a réussi à en faire un la semaine dernière. Ça a été très folklorique. Les mails, pour vous donner un ordre d'idée, au plus fort, on est à 60 mails techniques par jour. Chacun faisant entre une et six pages. Là, on s'est calmé, on est seulement à 35. Donc, faites le compte, le Working Group a dû commencer en mars, février, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de mails. D'ailleurs, je peux vous redonner, on doit être à 6000 mails dans le truc. C'est impossible, impossible. Au W3C, un ingénieur participant doit fournir 20% de son temps de travail au Working Group. Là, on est à 100%. Si vous n'êtes pas à 100%, vous ne pouvez pas participer, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Donc là, il y a un vrai problème de suivi et de participation. Ensuite, le W3C sans HTML, je l'ai dit tout à l'heure, c'est mort. Hein, vous imaginez la presse, HTML sort du giron du World Web pour sortir. Ça fait un vrai scandale. De l'autre côté, je ne vois pas non plus le What Working Group sortir HTML sans un gros coup de tampon du W3C. C'est l'autorité morale, c'est l'autorité historique, c'est Tim Berners-Lee, c'est tous les gens qui ont participé à toute la standardisation d'HTML. C'est impossible. On prévoit que la recommandation de W3C sortira en 2010. Bonne chance à tous. Soyez patients. HTML4 date de 98, 2010. J'espère qu'on va aller un tout petit peu plus vite que ça, parce que sinon on est vraiment très mal barré. Je le mets là vraiment parce que ça mérite, hein, je l'ai dit la semaine dernière. Je peux vous dire, il y a deux co-chairmen, donc deux co-présidents du HTML Working Group. Vu la gestion de la foule, vu la gestion des conflits, vu la gestion du nombre de mails, ils méritent vraiment une médaille et pas une petite, et pas en chocolat. Hein. J'aime beaucoup en fait le petit canard d'un Labrador. Mon fils. Bon. Alors, les bizarreries, il y a des trucs vraiment ahurissants dans HTML5. Bien pire que tout ce que je vous ai dit avant. Il y a un attribut qui s'appelle irrelevant. Je trouve ça excellent. C'est n'importe quoi. En gros, c'est pour. Vous connaissez en CSS display none, hein, ça vous évite qu'un truc soit affiché. Donc, en gros, sa restitution est complètement chintée dans le layout engine des navigateurs. Ce qui veut dire que si vous avez des trucs dynamiques dedans, bah, ils sont pas initialisés. Si vous avez des formulaires, ils sont pas initialisés non plus. Ça, c'est la même chose que display none, mais tout ce qui est dynamique à l'intérieur est initialisé. Ça va être un bordel à gérer dans les navigateurs. Je vous raconte que ça, parce que je ne sais pas du tout comment les layout engines vont gérer ça. En termes de performance, ça va être une catastrophe. Alors, l'attribut disabled sur les éléments link et style, c'était un des gros sujets de conflit entre la communauté et le XHTML2 Working Group. C'est quelque chose qui est présent dans le DOM depuis 1997. Et le XHTML2 Working Group a toujours refusé de faire un petit errata HTML4 pour le rajouter et harmoniser avec HTML. On y est enfin. Qu'est-ce que ça permet ? Vous ne virez pas votre élément style de votre document, vous mettez disabled égale true, pof, la stylesheet n'est plus appliquée. Donc quand vous êtes dans un éditeur ou dans un wiki ou un truc comme ça et que vous voulez vérifier l'application d'une feuille de style, c'est trivial. Disabled égale true, disabled égale false. Un véritable bonheur. Ça, on devait l'avoir depuis longtemps. Une ligne qui est quand même assez rigolote, Les éditeurs WYSIWYG doivent inclure un élément méta qui les définit dans le head. Pourquoi uniquement les WYSIWYG? J'ai pas encore compris. C'est assez bizarre. Et alors le must dans notre monde, c'est quand même c'est assez costaud, hein, je peux vous dire. Faut vraiment le faire, quoi. Donc non, et à mon avis, ça va sauter très fort. Ça va sauter très vite. Donc le style, stack, scope et gatrou, j'en ai déjà parlé. Petit souci, l'élément SVG n'accepte toujours image, pardon, n'accepte toujours pas de SVG. Ils sont seulement en train de le considérer, mais visiblement ça pose quelques petits soucis que ça soit pas des données bitmap mais du markup à l'intérieur. Oui, vous le faites, mais dans le standard, vous le faites depuis longtemps sur Opera, très très longtemps. Mais dans le standard, ça pose quelques petits soucis. Et quelque chose très bien, vous avez des données de session, donc qui vous permettent de sauvegarder en gros vos préférences de votre application web, et un mode offline. Alors c'est très compliqué, je vous dis tout de suite, il y a une API assez énorme, plutôt pas mal foutue. Je pense qu'une fois que les quelques désignés volontaires ont pris la spec et auront fait des tutoriels ou des bouquins, ça sera à peu près manipulable. Alors, les templates, ça c'est quand même un très gros coup. Avoir design mode et content editable à la fois, on devrait pouvoir faire des choses assez sympathiques, mais on ne va pas assez loin. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure d'un document qui a design mode on et un élément qui a content editable false, vous ne pouvez pas modifier le contenu du P, mais vous pouvez toujours sélectionner le P et le virer. Donc ça ne va pas du tout. Pour un template, c'est quand même assez gênant si le paragraphe en question, par exemple, est le copyright IBM 1990-2007, ça se vire pas. Donc on ne va pas assez loin et je pense qu'il va falloir aller plus loin. On a un undo manager, donc en gros un gestionnaire de transactions à l'intérieur de HTML. Je comprends pas très bien ce que ça fout là. C'est pour aller dans des... Pour dépasser HTML, dépasser les applications web et plus aller dans le monde de l'interface utilisateur. Je pense qu'on va avoir on devrait avoir assez rapidement une convergence avec Zool, XAML et des choses comme ça. Ça doit être fait pour ça. Et alors, puisque c'est quand même un petit sujet important de la journée, l'accessibilité dans HTML5, mon Dieu. Je crois que la phrase la plus commune, c'est ceci est une catastrophe pour l'accessibilité. C'est marqué en gros en rouge dans la spec. Où l'accessibilité n'est pas prise en compte dans la définition de cet élément. Donc c'est minable, totalement minable. Et excusez-moi, sachant que... J'en peux plus moi, faut que je picole. Sachant que la participation au HTML Working Group et au What Working Group sont ouvertes à tout un chacun, je vous engage à aller dire ce que vous en pensez. Je finis, j'ai plus grand chose. J'ai fini. Miracle. Voilà. Donc, pour répondre à la petite question, est-ce qu'on patauge, finalement? Ouais, un peu. Ça s'améliore. On a mis 9 ans, quand même. Il faudrait que ça s'améliore un peu. On n'y est pas encore. Voilà. Question?
Alors, pour les questions, juste pour rappeler, même si je pense qu'ils ne sont pas là pour ça... On a Dominique du W3C et Charles du Opera. Donc, je pense que ça peut toujours aider à donner un contexte, en plus de Daniel. Tu as une question en premier?
Oui, alors moi j'ai une grosse question. Je suis justement sur la mailing list, donc j'ai commencé par ne pas la lire vu le volume. C'est en train de se calmer, sans et blague. Le bug du temps en quittant Paris Web, alors j'ai peut-être enfin pouvoir la lire. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir qu'à chaque fois que les gens qui ont déjà écrit le WebWG arrivent pour HTML5, ils défendent un point de vue en disant « on l'a déjà argumenté, écoute, tu nous embêtes, ça fait 5 ans qu'on y réfléchit ». Moi, j'arrive derrière, je leur dis « je suis un petit peu inquiet si vous faites partir le longdesk ». Et les mecs me disent « fournis-moi des cas utilisateurs ». Je suis un petit peu inquiet pour DataGrid ou les tables, fournis-moi des cas utilisateurs. Donc, ils sont face à quelque chose qui me semble très binaire, de type « nous, on sait ce qui est vrai, et si tu veux prouver le contraire, tu as intérêt à me filer des de statistiques ». Et je ne sais pas répondre à ça.
Je confirme à 100%, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fanatisme et la jeunesse. Vraiment c'est le noyau, il y a un petit noyau de gars vraiment très jeunes, hein, vous seriez étonnés, c'est pratiquement des ados hein, qui passent leur temps là-dessus et effectivement ils sont comme moi, j'étais il y a 20 ans quoi. C'est-à-dire complètement allumés et bon, je suis pas complètement soigné hein, Mais ils font, effectivement, ils n'écoutent pas trop.
Ouais. Ouais, alors je suis même très frappé de voir que quelqu'un comme John Folliot, il pose des questions en disant répondez-moi hors liste, je vais essayer de monter des cas d'école. Par exemple, sur le long desk, il envoie la demande à la mailing list en disant contactez-moi hors liste et je vais essayer de montrer qu'il y a des endroits où ça marche. Enfin, je trouve ça ahurissant. Les mecs partent du principe que puisqu'eux, ils n'ont pas surfé assez pour en voir, il n'y a pas besoin de le laisser en respect. Et ça me fait très peur.
Je viens, pour aller dans ton sens sur un autre sujet, je viens de faire un commentaire dans la mailing list disant que les aimants Dell et INS, donc en gros qui vous permettent de faire le suivi des modifications dans votre document, un peu comme on suit les modifications dans Microsoft Office, sont complètement mal foutus pour HTML. Parce qu'ils sont à certains niveaux des blocs, à certains niveaux des inline. Donc vous les mettez à l'intérieur d'un paragraphe ou à l'extérieur d'un paragraphe. Donc imaginez, vous avez un P, vous ouvrez Dell, Toto, fermez Dell, fermez P. Vous êtes dans un éditeur WYSIWYG. Vous mettez votre curseur au début de votre paragraphe. Il est où votre curseur ? Il est avant le premier caractère, mais à l'intérieur du Dell, ou il est avant le Dell à l'intérieur du P ? C'est indémerdable. Donc c'est un problème absolument crucial en édition WYSIWYG. Et je leur ai fait un mail en expliquant c'est pas la bonne solution, on pourrait faire un autre truc différent, certes un tout petit peu plus compliqué, mais qui résout tous les problèmes d'un coup. Et en gros, la réponse c'est mais qu'est-ce que tu y connais ? Sauf que j'ai fait mon premier éditeur SGML en 1992. Oui, je suis désolé Stéphane, mais je te confirme à 100%. C'est très très pénible. Bah faut contribuer, faut leur taper dessus. Il n'y a pas d'autre
manière. Daniel, qu'est-ce que tu en connais ? Pardon. Moi, en tant que chef de standard chez Breuve, je suis chef de plusieurs de ces chiens de diable. Donc, première chose, si vous ne me traitez pas avec la gentillesse, unleash the hounds. En fait... Non, je suis d'accord. Il y a un problème dans le groupe. C'est un groupe super ouvert. Il y a des gens de tout type de comportement. Et il y a des gens là-bas qui sont vraiment...
Il y a des gens super aussi.
Il y a des gens super, mais il y a des gens qui dépassent les limites. Pour ce que je peux faire avec les gens d'après, de temps en temps, je dis aux gars, écoute, ça ne se passe pas. Et comme Daniel a dit, ils sont des gens, des jeunes, des fanatiques. Ils bossent super dur et ils font pas mal de travail. Et tant que je suis le chef, je ne suis pas complètement en contrôle. Ouais. Mais il y a des autres gens dans le groupe, il y a des gens qui attendent. Ce que je fais moi, je m'occupe de l'accessibilité. Et... je ne vais pas écrire, comme Daniel a dit, 8 pages chaque 3 minutes. J'ai des autres choses à faire dans ma vie, donc je roule un peu plus doucement. Et je suis... Il y a un groupe qui s'appelle HTML for All. C'est une autre liste des gens, plus ou moins, qui s'opposent de World Working Group. Donc, en même temps, ça donne une opportunité de discuter, de développer des idées, et ça donne... une sorte de théâtre adversarial qui permet les problèmes de monter. Donc, les chairs, comme Daniel a dit, ils méritent une médaille et une straight jacket, comment ça se dit en français.
Laisse tomber.
Mais je crois qu'il faut regarder le processus de W3C. Ça roule et ça déroule pas.
C'est un groupe jeune aussi, oublie pas. Donc, le HTML Working Group est jeune. Hein, il a été créé en mars. Ils sont en train de se synchroniser. Dan Connolly et Chris Wilson, les deux co-chairmen, sont obligés de taper du poing sur la table. Je te dis, ils méritent vraiment une médaille. C'est pas une exagération. Ils vont finir par avoir de l'influence. Ça y est, ça commence, mais c'est pas gagné encore. Effectivement. Question suivante.
Alors, là-bas, par contre, je vais vous demander d'aller très vite parce qu'on a beaucoup de questions. Je pense que certaines resteront certainement pour la table ronde.
Ah non.
Ok, Mathieu, du groupe de presse IPM.
Où ça ?
Ici.
Oui.
On espère HTML5 pour 2010. J'aimerais savoir si on peut estimer le temps qu'il faudra pour que les WYSIWYG, les agents utilisateurs et donc les, aussi les internautes s'équipent.
J'attends un emmerdeur, merci d'être là. c'est vraiment la question piège. Non, le gros intérêt du What Working Group fondé par donc Mozilla, Opera et Apple, c'est qu'ils implémentent en même temps qu'ils standardisent. Alors c'est un inconvénient d'un autre côté, parce que c'est un peu le foutoir, mais ils implémentent vraiment très très vite. Donc Canvas, c'est déjà pratiquement partout, sauf dans Internet Explorer, bien entendu, c'est normal. Et les autres trucs surgissent les uns après les autres dans les builds de WebKit pour Safari, dans les Lightly Builds de Mozilla, et Opera améliore vidéo, enfin bon, ça avance. Donc c'est pas parce que la recommandation, donc la spec sortira en 2010, qu'il n'y aura pas déjà des implémentations partielles de la spec bien avant. On a déjà Canvas interopérable sur trois navigateurs. Hein, c'est déjà pas mal quand même. On a d'autres trucs quand même très intéressants. Maintenant, c'est la première spec depuis très 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 longtemps dans le W3C, si ce n'est pas la première, qui se préoccupe nativement des environnements d'édition. Alors certes, légèrement, très légèrement, mais quand même. Comptez sur moi pour secouer le cocotier à propos de l'édition WYSIWYG. Il n'y a pas de souci, c'est mon métier, de toute manière, je n'ai pas le choix. Moi j'espère bien que comme les éditeurs WYSIWYG sont basés sur les layout engines des navigateurs en général, on arrivera à avoir des éditeurs WYSIWYG en synchronisation avec les navigateurs assez rapidement. Donc normalement ça va évoluer avec la spec elle-même et on devrait voir une implémentation partielle et de meilleure en meilleure de HTML5 au cours des années.
Oui, bonjour. Excusez-moi. Goulven Champenois. Donc ma question en fait c'est, je vois qu'on a des éléments comme, j'ai noté, vidéo, audio, canvas, command. C'est quoi la position de Adobe, de Flash? on est un peu en train de leur marcher sur les pieds là, on va avoir de la vidéo.
Mais
est-ce qu'ils ont une position là-dessus?
Oui, kill them all. Non, plus sérieusement. Adobe essaye pas du tout de chinter HTML avec Adobe Air ou des choses comme ça. Ils fournissent un environnement de production d'applications web. Silverlight, c'est exactement la même chose. Donc, tout ça est bâti en fait au-dessus du web, pas à côté du web. Donc pour eux, à la limite, ça leur facilitera la vie s'ils ont une solution interopérable avec des codecs interopérablement implémentés de vidéo. Donc, ils ont... il y a du conflit, il ne faut pas rêver, quoi. Chaque entreprise dans ce monde-là a envie de pousser son petit avantage concurrentiel. Mais je pense qu'ils doivent regarder ça d'un œil pas trop, trop négatif. Je sens que Charles va dire exactement le contraire, je vous le passe.
Il est très intelligent, ce mec. Mais il y a une autre possibilité. Moi, je suis un peu cynique, quoi. Et Microsoft, Adobe, ils ont les environnements qui veulent remplacer le web, le Silverlight, Air, etc. Le plus qu'ils attendent, s'ils disent, oui, on va discuter, on va disputer, il y a Microsoft qui disent, bon, c'est pas clair que vidéo fait partie du web. Le plus qu'ils peuvent laisser à côté le développement du web, le plus qu'ils peuvent dire « Attends, ouais, vous êtes bienvenus à attendre 10 ans pour que les gens finissent HTML5 ou vous pouvez développer dès maintenant avec Silverlight ou Air ou quoi que ce soit. »
Il y a quand même un élément important dans la coalition Mozilla, Opera et Apple. Mozilla, dans certains pays, on frôle les 40% de part de marché, hein. Si on n'est pas déjà au-dessus. Hein. Tu pourrais peut-être confirmer. Hein ? En Finlande, en Slovaquie, hein, on est à 43-44% déjà. Aux États-Unis, on doit être au-dessus de 17% maintenant. Moyenne européenne, on doit être à 21%, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est uniquement côté desktop. Côté mobile, Opera a une part de marché absolument phénoménale. D'accord ? Safari est très présent sur Macintosh. Excusez-moi, j'ai pas pu résister. Mais WebKit, le layout engine de Safari, est un truc robuste qui vient du monde, qui vient de KHTML sur Linux et KDE, et qui est quand même appelé à se déployer pas mal, vu l'investissement qu'Apple met dedans. Donc, bon an, mal an, si vous prenez les mobiles plus les desktops, la part de marché est colossale. Absolument colossale. Pardon ? J'ai un iPhone avec Safari dessus. Voilà, et ça marche pas mal quand ça plante pas. Parce que je l'ai déjà planté. Il n'y a personne d'Apple dans la salle ? Non, c'est dommage. Donc, même si Microsoft n'a pas envie de bouger, je veux dire, au bout d'un moment, quand il y a des sites web qui vont se déployer pour la totalité des mobiles et les 40% de parts de marché de Mozilla, excuse-moi, mais ils vont être obligés de bouger. Donc ils feront pas tout juste pour emmerder le monde parce qu'ils peuvent pas, mais, et c'est de bonne guerre pour eux, mais ils vont être obligés de bouger sur HTML5, il n'y a pas de souci.
On va s'arrêter là malheureusement, je sais qu'il y avait deux questions en attente, mais il faut qu'on vide la salle suffisamment tôt, à 6h pour IBM. Gardez-les pour la table ronde s'il vous plaît. Ça serait vachement, ça serait
beaucoup. Désolé. Pour vous.
Alors restez là 2 minutes, j'ai juste 2-3 slides à passer. Donc, on voulait faire des remerciements, je sais que je vous fais bloquer pour ça, pas que pour ça quand même, je vous rassure, il y a d'autres trucs derrière. On a besoin de remercier un petit peu nos employeurs à nous, le staff, parce qu'ils nous libèrent pour la plupart un petit peu de temps pour ces journées-ci. Il y a France Télécom pour Stéphane, Marc, Julien. Moi, personnellement, je suis à Yahoo. On a Digitas pour Adrien et Cédric. On a Novactive pour Olivier. On a Ciblo pour Christophe. Donc j'espère qu'un gros remerciement. Et un encore plus gros remerciement, parce qu'ils investissent encore plus, pour les 3 partenaires. On a IBM, donc je pense que vous avez remarqué. On a l'INSIA pour samedi. Et on a Erol qui nous offre les livres. Et d'ailleurs, tu es censé nous trouver 2 personnes avec des bonnes questions pour distribuer des livres, dans ce temps-là. Stéphane ?
Et qui est le papier ? Alors, un pour papier, parce que ça patauge pas mal quand même. Et voyons voir la personne qui était là-haut, IBM. Voilà.
Déjà eu un.
Ah non, c'est pas du jeu. Non, c'est pas du jeu. Qui a posé une question, je sais pas. Voilà. Bah, il y a eu 3 questions en tout, ça va être facile.
Et donc, rappel, donc, le Haut Cantina ce soir à 19h30, ou plus tard si vous arrivez plus tard. C'est dans le 12e, vous avez le métro ligne 6, c'est pas trop loin du 8, pas trop loin du 1. Il n'y a pas de 8, et bien il y aura le 1. Donc de toute façon nous on y sera, donc vous pourrez y être aussi. De quoi ? Et pour les orateurs, restez par ici parce qu'on avait parlé de